Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro, avec le père Alain Marchadour, bibliste. Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Nous poursuivons notre parcours de la saga d'Abraham, commencée les semaines précédentes. Nous avions amorcé la semaine dernière la lecture du récit du sacrifice d'Isaac, et nous la reprenons au moment où l'irréparable va être commis par Abraham. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris par les cornes dans un buisson. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le nom de Yahvé pour voix. En sorte qu'on dit aujourd'hui, sur la montagne, Yahvé pourvoit. L'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham du ciel et dit « Je jure par moi-même, parole de Yahvé, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer. » Et ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m'as obéi. » Abraham revint vers ses serviteurs, et ils se mirent en route ensemble pour Beer-Sabée. Abraham résida à Beer-Sabée. Au moment où Abraham va sacrifier son fils, père Alain, l'ange de Yahvé arrête son bras in extremis et sauve Isaac. Mais Abraham immole quand même un bélier trouvé sur place. Que signifie cette scène incroyable ?
Quand on lit ces textes, on est conduit parfois à se poser beaucoup de questions, même dans la traduction. Traduire, c'est toujours s'éloigner du texte original, même si les traductions en général sont plutôt bonnes. Mais peut-être vous faire noter pour les auditeurs quelques petits éléments purement linguistiques, parce que ça peut éclairer le texte. Dans la première partie du récit, Dieu s'appelle Dieu, en hébreu Elohim. C'est le nom générique de la divinité chez tous les peuples sémitiques, Elohim. Or, à partir du verset 11, Elohim disparaît. C'est l'ange du Seigneur qui apparaît, c'est-à-dire l'ange de Yahvé. Et on ne peut pas ne pas se poser la question, comment expliquer cette transition ? Est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'à travers un texte aussi puissant que celui-là, on est en train de nous raconter une sorte de transition où nous passons d'un Dieu puissant, d'un Dieu guerrier, d'un Dieu fort qui s'appelle Elohim et qui est le nom, comme on le dit, de tous les peuples voisins d'Israël qui sont de langue sémitique, tout à coup on passe au nom spécifique d'Israël, c'est-à-dire l'ange de Yahvé, l'envoyé de Yahvé, ou Yahvé à travers un médiateur, comme si on voulait nous faire comprendre que la séquence de violence qui était présentée et permettait à Abraham de manifester son obéissance ainsi qu'à son fils, est en train de s'arrêter, que désormais c'est l'ange du Seigneur qui devient celui qui conduit l'histoire et qui interrompt justement ce cycle de la violence. Donc ça nous aide peut-être, oui, il y a beaucoup d'éléments. Alors si je voulais aller encore plus loin dans les subtilités de l'hébreu, ça va peut-être vous étonner, c'est que le bélier en question, et ça, ça m'a frappé en travaillant ces textes. J'ai passé des années, hein, chaque année, quand j'enseignais le Pentateuch, je revenais, et chaque fois je trouvais du nouveau, tellement c'est passionnant. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans les commentaires juifs, c'est que le mot bélier, à la place de, l'enfant c'est un bélier, et le mot à la place de est important. Il y a une substitution là, on passe de sacrifice humain à sacrifice animal, le bélier. Et les commentateurs juifs, alors ça va loin dans la recherche même littéraire ou littérale, ils font remarquer que le mot bélier en hébreu, la première lettre du mot bélier, c'est un aleph, le même mot que Elohim, et la lettre du milieu du bélier, c'est le yod, c'est Yahvé. C'est-à-dire, ce bélier, au fond, même dans son nom, dans les lettres qui ouvrent et qui sont au centre du récit, exprime à la fois le dieu de la violence qui est en train de mourir, d'une certaine façon, au bénéfice du dieu de la tendresse qui est le dieu Yahvé, et qui se présente d'ailleurs comme ça dans l'Exode, je suis le dieu de la tendresse, de la miséricorde et de la compassion. Donc à la fois les mots, à eux tout seuls, disent beaucoup de choses.
C'est vrai que là, même dans la scène qui se déroule sous nos yeux, le contraste est très violent, puisqu'on passe effectivement de l'horrible, de l'impensable, à brutalement une intervention qui va faire que Isaac va être sauvé.
Exactement, et cette idée que Isaac, encore une fois, là aussi, les mots... Alors, c'est vrai que la tradition juive a peut-être plus que nous l'habitude de jouer sur les mots, sur les vocabulaires, sur les formules. Le fait de répéter deux fois dans la montée, ils allaient tous deux ensemble, ça laisse entendre quelque chose quand même, parce que on aurait pu d'un côté opposer le fait, quand on dit qu'Abraham garde le couteau pour lui, comme si elle avait peur que l'enfant se blesse avec le couteau, qui est un peu un humour un peu extraordinaire, mais si, c'est vrai que s'il s'était blessé, dans la tradition des sacrifices juifs, il était incapable d'être offert comme sacrifice. Donc, mais il y a là des significations très riches, cette adhésion entre le père et le fils, peut-être cette solitude que Leonard Cohen a bien raconté, cette espèce de solitude qui va marquer ce petit garçon qui a été ébloui par le soleil qui lui a brûlé les yeux, mais qui a connu une expérience tellement énorme, hein, et qui marque aussi un tournant dans les traditions religieuses, on pourrait dire.
Alors après, il y a quelque chose qui est assez surprenant. Après l'intervention donc, de l'ange du Seigneur pour sauver Isaac, on s'attendrait à ce qu'Abraham le remercie. Eh bien non, c'est le contraire qui se passe. C'est l'ange du Seigneur qui remercie Abraham en lui promettant des bénédictions et une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Comment comprendre cette promesse et cette inversion un petit peu des rôles?
Ce qui montre bien qu'aux yeux du narrateur et sans doute dans la logique du récit, c'est évidemment Abraham qui est la figure centrale. Et l'enfant qui est avec lui... Il est avec en adhésion, on pourrait dire, avec lui. Il est en continuité, il l'accompagne. Et le père n'apparaît pas dans sa tendresse. C'est Dieu lui-même qui, au fond, empêche le sacrifice. Mais s'il n'y avait pas eu l'intervention de l'ange de Yahvé, que serait-il arrivé?
On ne serait peut-être pas là aujourd'hui.
Alors, vous connaissez, je l'ai cité dans mes livres plusieurs fois, parce que c'est des thèmes qu'on retrouve dans les traditions. C'est André Neher qui raconte ça, qu'un jour, qu'il était avec un poète qui s'appelait Levick, à côté de Yad Vashem, le lieu du sacrifice. Il avait entendu le récit du sacrifice et le gamin a posé la question à son père, « Papa, qu'est-ce qui serait arrivé si l'ange était arrivé en retard ?» Et à ce moment-là, un peu comme les prêtres, souvent, quand ils font de la pastorale trop facile, auraient pu répondre « Tu sauras, mon fils, que Dieu n'est jamais en retard. » Et c'est ce qu'a répondu le maître, le rabbin, et le petit gamin qui a entendu, lui, il dit, moi je sais que l'ange de Yahvé est arrivé 6 millions de fois en retard. Donc, si Dieu peut arriver en retard, l'homme ne doit jamais être en retard. Et c'est un glissement dans la signification, même dans la lecture, on pourrait dire. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne le lit plus de la même manière et qu'on cite souvent Hegel ou d'autres personnages qui ont été durs pour ce texte. Oui, il est dur dans sa littéralité, si vous voulez. Mais il marque sans doute une étape dans l'évolution spirituelle et religieuse qui va culminer pour nous, chrétiens, sur l'arbre de la croix. Et ils allaient tous deux ensemble. Les pères de l'Église ont repris ces deux mots qu'on retrouve deux fois dans le récit de Genèse 22 pour l'appliquer à Dieu et à son Fils. Ils allaient tous deux ensemble. C'est-à-dire, ça n'est pas vrai que le Fils est sacrifié par le Père pour venger le péché des hommes qui ont versé le sang et qui ont blessé Dieu. Non, Dieu est consentant, un peu comme les deux qui montaient vers la montagne. C'est notre Dieu, Père et Fils, qui nous donne le Fils et qui nous aime sur la croix dans ce sacrifice.
Alors, si on revient à Isaac, à cette figure d'Isaac, il y a quelque chose qui est assez surprenant. C'est qu'une fois qu'il a été sauvé, il ne dit rien. Et puis, on a l'impression qu'il disparaît, puisque Abraham redescend tout seul de la montagne retrouver ses serviteurs. Plus d'Isaac, on ne sait même pas où il est, on n'en entend plus parler, du moins dans cet épisode. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il est devenu, Isaac?
Il y a plusieurs façons d'interpréter. Moi, je crois, je suis assez sensible aux indices des textes, si vous voulez. Vous savez, l'auteur, ou les auteurs, parce qu'il peut y avoir sans doute eu plusieurs auteurs dans ce texte, hein, l'auteur le savait comme nous, que c'était important de savoir qu'il était descendu avec son père, puisqu'il a été sauvé. Donc, au niveau narratif, c'était urgent de nous montrer qu'il était là. Pourquoi n'est-il pas là? Moi, je suis convaincu que derrière le sacrifice d'Isaac, qui est redescendu, bien sûr, il y a la symbolique, on est passé de l'un à la multitude. Et donc, l'obéissance d'Abraham a fait que ce don qu'il a fait de ce fils, cette capacité de le donner, a été récompensé au centuple, puisque ce qui lui est donné, comme nous dit le texte, c'est la multitude. Et donc, d'une certaine manière, Isaac n'a plus tellement d'importance dans le récit. C'est la multitude qui est promise à Abraham et qui va être la multitude qui sera manifestée à la fois par les Juifs, par les chrétiens et par les musulmans. Voilà l'aboutissement de ce grand sacrifice d'Isaac.
Moi, si je me mets à la place des serviteurs qui sont restés en bas, je peux me poser la question. Il n'est pas redescendu, il savait bien ce qui allait se passer. On pourrait penser que ça s'est passé sans témoin.
Oui, il ne faut pas être trop rationaliste sur les textes. Vous savez, ils ont compris quand même. Hein. Ils retournent avec Abraham, mais il y a une signification. C'était Abraham qui était au cœur du récit. On sait qu'il n'a pas été mis à mort, Isaac, donc on est rassuré. Mais on sait aussi, si on fait une lecture spirituelle, que Abraham revient alors qu'il a failli tout perdre par son obéissance. Il revient avec la multitude qui lui est donnée. Donc Abraham devient la figure de l'obéissance et de la multitude par son obéissance. N'oublions pas que Abraham, ce qui le caractérise, peut-être qu'on pourrait le dire au terme de notre réflexion, Abraham, sa grande caractéristique, le trait qui le définit, c'est celui que vous trouvez au chapitre 15 de la Genèse. Au chapitre 15 de la Genèse, lorsque Abraham revient, après avoir sauvé son neveu, on l'a évoqué tout à l'heure, après avoir sauvé son neveu, Dieu lui dit, je te donnerai la multitude. On l'a vu ici. Il le conduit dehors de la tente, il lui montre les étoiles du ciel. Il lui dit, tu vois les étoiles? Eh bien, tu auras des enfants aussi nombreux que les étoiles. Et on dit, le texte dit, Abraham crut et cela lui fut compté comme justice. Abraham crut, c'est le premier moment, première fois qu'apparaît le verbe croire, qui est important. Abraham, c'est le croyant par excellence.
Le père des croyants.
Le père des croyants. Et donc, Abraham crut, relire ce texte, c'est toujours intéressant, il crut et il est devenu vous le dites, le père des croyants. Et d'une certaine manière, j'ai eu l'occasion de travailler ce texte, parce que je suis en train de préparer un livre sur la fidélité de Dieu qui est en voie de parution. J'ai eu un problème parce que j'ai cherché le mot fidélité en hébreu et je ne l'ai pas trouvé. Qu'est-ce que j'ai trouvé à la place ? Le verbe croire. Qu'est-ce que c'est que croire au fond ? Qu'est-ce que c'est que croire dans la durée ? Qu'est-ce que c'est que croire dans les moments les plus durs ? Ben, c'est ça la fidélité. C'est être capable d'être fidèle même dans les moments où les temps sont durs, où c'est pas facile de voir clair. Abraham crut. Et Abraham, c'est le croyant par excellence, et le texte que nous avons commenté à travers deux séances dit bien cette fidélité d'Abraham. C'est le fidèle par excellence, et c'est vrai que quelquefois je me suis posé la question avec d'autres exégètes, au fond, qui est le plus important ? Est-ce que c'est Abraham ou est-ce que c'est Moïse ? Et il y a des réponses différentes. Certains disent c'est Moïse parce que Moïse nous a donné la Torah. D'autres disent non, c'est Abraham. Parce que c'est celui qui nous donne la foi. Et saint Paul ne va pas s'y tromper. C'est Abraham qu'il mettra au cœur même de sa lettre aux Romains comme étant le croyant par excellence et qui a montré sa foi de différentes manières et surtout de manière extraordinaire à travers le texte que nous avons commenté ensemble.
Alors justement, ce texte, il a effectivement eu toute une vie, déjà dans l'Ancien Testament, puisqu'il a été repris à différentes occurrences, puis dans la tradition juive, vous en avez déjà parlé. Comment a-t-il été ensuite relu et intégré dans la tradition chrétienne, dans le Nouveau Testament et chez les pères de l'Église ?
Ben, il y a cette idée que les pères de l'Église vont essayer de comprendre. Ils étaient aussi lucides que nous, parfois même aussi critiques. Parce que quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, le père de l'Église s'interroge quand même et dit « Mais comment il peut faire ça ?» Et leur réponse est « Abraham a cru parce que Dieu qui était capable de lui donner un enfant alors qu'il était vieux et sa femme aussi, est aussi capable de lui rendre un enfant qui aurait été sacrifié pour lui puisqu'il est Dieu. » Donc Abraham avait confiance et les pères de l'Église jouaient là-dessus, cette confiance en Dieu qui ne pouvait pas permettre que Abraham perde son enfant.
Alors ensuite, le texte est sorti de la sphère religieuse, et notamment à l'époque moderne, où le sacrifice d'Isaac a été relu par des philosophes comme Kant et Hegel, vous en avez un peu parlé, des poètes comme par exemple Pierre-Emmanuel, des peintres comme Chagall, qui a fait un magnifique tableau qui fait partie du cycle du message biblique qui est exposé au musée de Nice, et même par le chanteur canadien Leonard Cohen dans sa chanson intitulée « The Story of Isaac » dont nous allons écouter le premier couplet.
The door it opened slowly, my father he came in, I was 9 years old. And he stood so tall above me, blue eyes they were shining. His voice was very cold. Said, I've had a vision, and you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of gold.
Nous voilà donc au terme de ce parcours de 3 émissions sur la saga d'Abraham, qui s'ajoute d'ailleurs à l'émission qui avait été faite précédemment sur l'appel d'Abraham. En conclusion, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur finalement la vie de ce grand et très beau texte biblique qui a suscité une telle diversité de lectures ?
Oui, c'est vrai que La grandeur de textes, souvent, ça tient à la diversité de leur postérité. C'est-à-dire, un texte est grand s'il arrive à faire naître des lecteurs, des lectures, parfois différentes. Et là, on le voit bien, puisque aussi bien chrétiens, juifs, musulmans, parfois non-croyants, vont utiliser ce texte, vont le lire, vont l'interpréter. Alors, lire, c'est toujours peut-être qu'on a besoin de le réentendre de temps en temps. Lire, c'est toujours dire autre chose que le texte. Dire, c'est dire plus que le texte. C'est aller au-delà du texte. Et donc ici, nous avons... Il y a des indices quand même qui sont parlants. Le fait de on ne peut pas dire le contraire du texte, mais ce texte, il ouvre des voies, il ouvre des chemins. Peut-être que pour nous, pour des chrétiens, il prend son sens dans l'ensemble des Écritures. C'est-à-dire qu'il faut le replacer dans le contexte des Écritures, dans l'évolution, dans le moment aussi où Dieu de Yahvé, de Dieu Elohim, est devenu ce Dieu Yahvé de tendresse. Et donc c'est dans cette filière et que le Christ, pour nous, a incarné, bien sûr, dans son amour pour les hommes, et dans sa capacité de se sacrifier, un peu comme Isaac, qui lui, sans le savoir, au fond, symbolisait déjà le symbole du sacrifice du Christ avec son Père.
Nous aurons donc nécessairement l'occasion de reparler à nouveau d'Abraham dans « Selon les Écritures ». Merci à vous, Père Alain Marchadour, pour nous avoir partagé vos connaissances. Merci aussi à Christophe Aubry qui assurait la réalisation. Cette émission sera rediffusée dans la semaine et elle peut être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web de votre radio. Si vous souhaitez réagir ou nous interroger, vous pouvez nous envoyer un mail à selonlesecritures@radioprésence.com. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Selon les Écritures. Merci à tous et à très bientôt sur notre antenne.